15h02 à Boulevard 102.1. Je m'appelle Audrey Pinchon, on s'accompagne jusqu'à 18h dans le retour de Boulevard. Évidemment, autour de la table, l'acolyte Véronique Bergeron, l'acolyte à l'année. Et Anthony Gnaccarini, qui est littéralement le pilier le plus solide cet été du retour. Elle est là dans toutes les équipes. La semaine prochaine, Max Larouche qui va se joindre à nous. Véro tombe en vacances. Et ainsi de suite, pour ce qui est des routes en ce moment, s'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, peut-être vous dire rapidement que direction Est sur la capitale, auteur Robert Bourassa, ça commence à ralentir. Ouest, ça se passe entre Henri-Bourassa et Laurentienne. Si vous êtes sur Henri IV Sud, hauteur Charret, déjà au ralenti. Le pire, c'est vraiment la rive sud. La 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, super lourd. Il y a des travaux, il faut le dire, là, dans le coin de Chemin des Îles, dans le coin de Taniata, ce qui fait en sorte que depuis 14 heures déjà, là, c'est au rouge. Si vous êtes sur Chemin des Îles, entre Guillaume Couture et la 20 bordélique et Guillaume Couture, il y a des problèmes entre Chemin des Îles et Taniata. Des travaux dans le secteur aussi. Il y a des gens, évidemment, qui essaient d'éviter le trafic. Pas être plate, mais il est dur à éviter pour la rive sud, malheureusement. Là. Fait que si vous pouvez vous permettre un petit, détour, vous perdre vers un restaurant, ça peut bien faire. Aller prendre une petite bière de fin d'après-midi, petite terrasse, fait quand même très chaud à l'extérieur. Ça peut peut-être vous éviter de perdre patience dans le trafic, honnêtement. J'avais très, très hâte à ce moment-là parce que, au-delà d'être une amie personnelle, c'est une collègue qui revient de congé de maternité que vous n'avez pas réentendu, si je ne m'abuse, à Boulevard. Mais peut-être les vendredis dans le garage à Dan en remplacement la semaine passée. Élodie Derry, qui est de retour. Comment vas-tu?
Ça va super bien. Très, très heureuse d'être là. Je suis de retour depuis la semaine dernière. Fait qu'en effet, vendredi, garage à Dan, j'étais là fidèle au poste avec un grand plaisir de rejouer de la musique pour les auditeurs de Boulevard.
Puis trop le fun en plus dans le garage.
Oui, il est le fun. La musique est bonne.
Bien là, c'est sûr que... J'étais habituée du boulevard du rock. Ouais. Où est-ce qu'on n'allait pas plus loin que les années 90? Mais là, on a embarqué des... On est allé dans le jukebox, là. On est allé fouiller dans le vieux stock poussiéreux, là. On a fait lever la poussière. Puis il y avait des histoires à raconter. Il y avait des beaux textos qui ont rentré. C'était une belle soirée chaude vendredi dernier aussi. Fait que j'imaginais que je parlais à du monde avec une petite corona la terrasse, en train de vouloir juste de la bonne musique puis un bon moment, tu sais.
C'est hot. C'était-tu stressant, l'aspect retour de congé? Où là, tu reprends le travail.
Tu demandes pour une amie?
Oui, je demande vraiment pour quelqu'un que je connais. Là.
Oui, j'étais stressée. J'étais surtout triste. Je pense que les deux émotions peuvent cohabiter puis il ne faut pas avoir peur de le dire. J'avais de la peine de quitter mes deux filles parce que je trouve que le premier congé de maternité, tu sais, avec un bébé à longueur de journée, des fois, c'est un peu plus long. Mais là, j'étais aussi avec une petite fille de bientôt 3 ans qui a de la jasette, qui a du fun. Tu sais. Fait que là, j'étais comme, ah, Maudine, on avait des beaux échanges, des beaux moments. J'avais pris cette habitude et ce rythme-là de vie, ça faisait un peu peur. Mais après 10 minutes dans les bureaux, je savais que j'étais à la bonne place au bon moment. C'est revenu rapidement. L'enthousiasme, l'engouement, voir les collègues, recevoir les textos des auditeurs, puis ça fait comme, OK, j'aime encore mon métier, puis je suis contente d'encore être là.
Bien, égoïstement, nous autres, on est bien heureux que tu sois de retour, de pouvoir profiter de ton talent ici à Boulevard aussi cet été pendant ces chroniques-là. Puis là, tu nous proposes un genre de... Je vais appeler ça un jeu musical, mais vous allez comprendre, les auditeurs, vous allez pouvoir participer, parce qu'on relie ça quand même. Je vais appeler ça l'actualité nostalgique. C'est-tu bien dit?
Oui, on revient dans différentes époques de nos vies. Je vous rappelle qu'est-ce qui faisait l'actualité en telle année et on essaie d'associer ce moment-là de nos vies au hit qui jouait à la radio cet été-là.
Il va falloir creuser dans nos mémoires. Là.
Alors, on va vraiment rester quand même dans l'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, on avait besoin d'un petit quelque chose d'un peu plus léger. Alors, je suis arrivée comme une limonade fraîche dans votre journée.
Tellement.
J'adore. OK.
Ça part.
Ça part. Alors, première mise en situation, les auditeurs, vous pouvez partager. On va commencer avec des années plus récentes, puis on va aller plus dans la nostalgie en avançant.
OK, j'aime ça.
Il y a 4 questions. Question numéro 1. On est en été 2020. Ça fait quelques mois qu'on freak sur le lavage de mains puis qu'on s'obstine sur les masques et les visières.
À cette période.
On nous annonce qu'on va pouvoir faire des rassemblements intérieurs de moins de 50 personnes à partir de fin juin.
Il y a des bouts que je préfère oublier. Moi,
je me rends compte que j'avais oublié ces rassemblements-là à nombre de personnes.
Toujours à l'été 2020, TikTok fait sa montée en popularité. On pense que c'est juste une affaire pour faire des danses aux ados.
Oui, vrai.
À cette heure, tout le monde est là-dessus.
C'est vrai.
C'est fou pareil, hein? Tiger King est un phénomène connu.
Mon Dieu!
Oh, j'ai haï ça.
Et Tiger King ne fait toujours pas de prison. Et tout est... et je reprends ça. Et les manifestations Black Lives Matter résonnent jusqu'ici.
C'est vrai.
À l'été 2020, quel extrait jouait à la radio? Est-ce que c'est cette toune-là? Alors, c'est Harry Styles avec Watermelon Sugar. Ou encore, est-ce que c'était cette toune-là? The club isn't the best place to find the
lovers, so the bar is where I go. Facile.
Shape of You de Ed Sheeran en 2020. Laquelle de ces deux chansons?
C'est Watermelon.
C'est Watermelon?
Je suis pas mal sûre,
moi. Je vais y aller
avec
Ed Sheeran, moi.
Tu y vas avec Ed Sheeran? Ed Sheeran, c'était un petit peu avant. C'était en 2017. Et c'était
Watermelon,
c'était
sugar.
Le melon. C'était le melon puis son sucre qui pognait à radio.
Harry Styles, l'herbe à chaud.
Et ça jouait partout, cette affaire-là.
On l'a pas entendu fort, mais Véro a appelé Harry Styles l'herbe à chat pour madame.
Ben oui.
C'est vrai?
Ben oui, c'est vrai.
Ah non, mais ça a été la folie, là.
Bon,
ben
c'est encore la folie. Il fait combien de soirs? Il a fait combien de soirs en Angleterre?
C'est
ça
complètement
va faire
capoté.
Il a fait combien de soirs à Madison Square Garden?
T'as raison.
C'est ben, ridicule.
Je suis une madame.
Je suis une madame aussi.
Je suis vraiment une madame.
Bien assumée.
Des madames chauds.
On poursuit, on s'en va un petit peu plus loin dans le temps, à l'été 2016. Dans les parcs, plus personne ne marche en regardant devant soi. C'est la folie pour attraper...
Ah, les Pokémon!
Oui,
oh, mon
c'est
Dieu.
La folie pour attraper Dracaufeu ou encore Pikachu.
Ouais, moi, je l'ai fait, là, puis je trouvais ça drôle dans ce temps-là.
T'as fait ça, toi?
Absolument.
Moi, ça a duré une soirée.
Ah, ça a duré une semaine.
J'étais à Jonquière.
Mais ça prenait
tellement la batterie du cellulaire, cette affaire-là.
Entre autres, mais dans le coin du château Frontenac puis de la fontaine de Tourny, il y en avait du Pokémon.
Mais
fait que, c'était comme une belle
fou.
Excuse de faire les deux.
Ah, ben oui.
Max Larouche a recommencé il y a quelques mois.
Ça, c'est un appel à l'aide. Ouais,
sérieux, ça va pas bien. Le passé, t'es vendredi après-midi dans les parcs à chercher des Pokémon. Là.
Mais
il
y a de chance que tu trouves la police.
Il n'est pas tout seul parce que ça fait l'actualité que c'est de retour. Donc, bravo Max. Écoute, un gars de son âge. Hein? Mais ça fait 10 ans déjà. En juin, la même année, on est toujours à l'été 2016, le député péquiste de Marie-Victorin, Bernard Drainville, annonce son retrait de la vie politique.
Hey c'est vrai.
Il devient alors animateur dans un poste de radio de Québec.
C'est vrai.
C'est drôle, hein?
Ça fait déjà 10 ans.
Ça fait déjà 10 ans. Et qu'est-ce qu'il joue à ce moment-là, à l'été 2016, à la radio? Est-ce que c'est cette toune-là? Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
OK.
Avec Billy Ray Cyrus et Lil Nas X sur Old Town Road ou encore cette tune-là. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. 21 Pilots et Ride.
Je pense que c'est 21 Pilots.
Ouais,
moi aussi, j'ai l'impression que c'est 21 Pilots. Dans ma tête, on dirait que l'autre est venu un peu plus tard, mais peut-être
moi
que
aussi,
je me trompe.
Vous êtes forte, c'est la bonne réponse.
Ouf, yeah. So I'm taking
my time on my ride. Hey, c'est drôle, cette marche-là dans les souvenirs.
C'est bon, ça, quand même.
C'est super bon jusqu'à ce que je les ai en entrevue puis qu'ils soient des assholes.
Hey, ça, oh, là, non, mais on va prendre un instant, OK? Ça vaut la peine parce que c'est rare qu'Elo et moi, on est ensemble en onde, là. Ça fait quelques années qu'on l'a pas été.
C'est le début de notre amitié.
C'est littéralement le début de cette amitié-là. De ma perception, j'étais en stage, OK? J'étais en stage, boulevard est musical. 21 Pilots s'en va en spectacle à Montréal, puis le boss me dit, as-tu envie d'accompagner Elo qui s'en va faire une entrevue? Toi, tu vas comme filmer, faire la route avec elle, aller voir le show, tu sais, enjoy la soirée, tu vas pouvoir en parler si jamais en onde, puis blablabla. Parfait, OK, tu sais, c'est cool. Fait qu'on embarque dans le show, puis on se rend à Montréal.
On se rend à Montréal, puis je suis quand même stressée parce que normalement, c'est Mathieu Marcotte qui fait les entrevues en anglais et tout ça.
Puis il y en a vu d'autres, Mathieu. Là.
Mais il y a l'habitude. Puis malgré le fait que mon anglais soit bon, je me dis, je vais foirer ça. Puis qu'est-ce que je vais leur demander qui va les intéresser? Puis on se pointe là, on arrive au Centre Bell. Je suis avec la stagiaire, je veux l'impressionner, tu sais, mais quand même, en toute vulnérabilité, je lui dis que je suis stressée. Puis l'entrevue, ça va à tort, là. Ils nous font attendre. Puis plus ça va, plus j'ai chaud, puis plus je me demande pourquoi je suis là.
Et les gars sont tellement désagréable quand il arrive, mais tellement désagréable, tu sais. Elle a tout donné, là. Elle a tout donné. Puis Hello parle quand même bien en anglais, pour vrai. Là. J'ai trilingue, là. Ça va, là.
Mais c'est parce que j'ai commencé par des questions safe en me disant on va se mettre confortable. Ouais. Puis après ça, parce que j'étais une grande fan de 21 Pilots, je vais aller poser des questions un petit peu plus, tu sais, le fun, ouais, plus niche, puis tout ça. Et ça finit qu'avant même de me rendre aux questions niche, les gars sont vraiment plates. Ils me répondent un peu à la Beastie Boys en me niaisant. Exemple, bien là, tu sais, vous êtes au Centre Bell, on va avoir le droit à un spectacle de vous autres en extérieur au Festival d'été de Québec. Y a-t-il quand même des choses qui vont être différentes d'un spectacle à l'autre?
C'est une bonne question.
Puis ils me répondent, bien sûrement qu'à Québec, il va y avoir un peu plus de mouches.
Mais c'est frette, là. C'est frette, là.
Mais même pas pour rire avec moi, là. Tu sais, vraiment, comme, ça me tente pas d'être
je
là.
Je ne collabore pas à cette entrevue.
Les filles, j'ai droppé le micro.
Hein?
J'ai enlevé le micro de ma face.
Je savais plus s'il fallait que je filme.
Je suis venue toute shaky. Audrey, là, elle sait plus, je filme-tu ou je filme pas. Il y a les gars de la compagnie de disques qui suent autant que moi. Puis je fais juste... I don't know what you want me to do, guys.
You're laughing at me.
I feel like you're laughing at me. I don't have anything to give on air. J'ai rien à donner demain. Fait que le lendemain,
t'as bien fait de leur dire, bravo.
Absolument. Honnêtement, oui. Mais tu sais, je veux dire, après ça, tu vas voir un show d'un artiste que t'aimes qui est de même. On n'a pas fini le show, là. On a regardé comme 4-5 tours.
Tu peux plus les aimer.
Non. On est redescendu à Québec, puis écoute, c'est the rest is history, comme
c'est fucky, parce que moi, je les ai rencontrés le même été.
Oui.
Ah, ouais.
Au Festival d'été de Québec, ça a été une toute autre expérience.
Arrête-toi!
Parce qu'on m'avait demandé d'accompagner une jeune fille qui, à ce moment-là, était dans une grosse crise identitaire, puis la musique de 21 Pilots l'avait aidé beaucoup.
Oh.
Les gars ont été
charmant.
Des sweet guys. Aucun sens à quel point ça a été un bon moment.
Ben oui, c'est vrai. Hein? Moi aussi, j'étais dans une crise d'identité.
Non, c'est ça.
Je savais juste pas.
Mais, c'est comme, je sais pas si c'est le contexte
ça,
de fan. Mais tu sais, donnez-en pas des entrevues si vous voulez pas en donner.
Un moment donné, ça fait partie de ta job d'artiste. C'est bref.
Alors, pour votre information, l'amitié d'Audrey et moi a commencé avec moi qui
avec
brûle.
Le drame.
Et au Saint-Hubert, hein,
ouais.
Ma petite salade à l'asiatique.
Elle l'a pas mangée.
J'ai dû brailler dedans, par mes larmes.
Ah, c'était épouvantable.
Alors voilà, on s'en va en 2008, les filles.
Yes.
Ouais.
2008, bien sûr, c'est le 400e de la ville de Québec. Céline Dion, Ginette Renault et Sir Paul McCartney qui en mettent plein la vue, ainsi que le fameux Moulin à images de Robert Lepage. C'était un bel été à Québec. Et qu'est-ce qu'on écoutait à la radio? Est-ce qu'on écoutait ceci? This was never the way I planned. Okay. On est en 2008. Est-ce qu'on écoutait plutôt ceci?
J'ai l'impression que c'est Katy
Perry.
Mm-hmm.
Je n'ai aucune idée.
Je pense que The Weeknd, ça a été plus tard.
Ouais, moi aussi.
J'avais l'impression que les deux étaient plus récentes.
Ah ouais, hein? Katy Perry est là depuis longtemps. Et si vous revenez au clip... Tu sais, je suis allée chercher l'extrait tantôt. Je suis allée voir le clip de Katy Perry. Elle était tellement jeune.
Elle était différente.
I Kissed a Girl, ça date de
2008. Oh, hey, good job! I kissed a girl. Les auditeurs sont quand même bons parce que les gens participent au 88-971-1021 puis à date, on a les bonnes réponses, on n'est pas pire quand même.
Ah ben, good job, je suis fière de vous autres. Et je termine avec un dernier été. Nous sommes à l'été 1999.
Et Pelaye, on va peut-être être moins efficace ici, là.
Tu n'étais pas vieille.
Hein? J'étais jeune quand même.
Mais Véro, Antonine, vous êtes là avec moi?
Oui. On s'en souvient.
On revient en 99, à l'époque où on se gravait des CD avec nos tunes downloadées sur Napster. The Blair Witch Project fait genre toute une génération. Et l'affaire Monica Lewinsky-Clinton fait encore jaser.
Oh mon Dieu,
après un acquittement. Et voilà, le cigare. Qu'est-ce qu'on écoute en se préparant pour la fin du monde? Le bug de l'an 2000. En 99, on écoute ceci. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. Living la vida loca de Ricky Martin qui m'a vraiment surprise lors du Super Bowl.
Ouais.
À la performance de Bad Bunny. Mais qui est ce papa? Et voici Mambo Number 5 de Lou Béga. A little bit of Monica in my life. A little
bit of Erica by my side. A little bit. Je pense que c'est Ricky Martin.
Moi aussi, parce qu'il me semble que Mambo Number 5, j'étais pas en secondaire 4, là. J'étais genre en secondaire 2. J'essaie de calculer dans ma tête et de penser à des parties.
Ce serait plus vieux.
Puis il me semble que Ricky...
Moi, j'étais sur les pistes de danse dans le temps de Ricky Martin. Fait que,
ouais, t'avais le droit de sortir d'un bar, toi, là.
Moi, j'allais dire Mambo, mais je suis pas une référence ici, là.
Les filles, c'est une colle. Les deux, c'est en 1999.
Ah! Merci. Ah, je doutais, ben, là, je suis comme, mais voyons. J'essaie vraiment de les placer dans le temps. C'est une très bonne idée.
Hey, c'est donc bien le fun, cette affaire-là. Ça donne quasiment envie d'en refaire peut-être dans les prochaines semaines. C'est vraiment une bonne idée. C'est rafraîchissant.
Écoute, tu m'as demandé une chronique. Si tu veux que ce soit ça, ce sera ça. Si tu veux d'autres choses, ce sera d'autres choses.
Ben, écoute, on regarde ça la semaine prochaine, mais définitivement, ça fait jaser les auditeurs aussi. Merci d'être passé, hello.
Merci à vous autres, les filles. C'est vraiment le fun.
15h17, vous êtes dans le retour de Gravel, de Boulevard.
Tout le Seigneur. Temps.
Gravel et Paulie revient le 3. OK, on revient dans les prochaines minutes à Boulevard 102.
Le retour.
Le retour de Boulevard, c'est jusqu'à 18h en semaine, du lundi au jeudi. Cette semaine, je suis entourée de belles demoiselles. Véronique Bergeron qui est là. Antonine Iaccarini qui nous accompagne aussi pour l'été à Boulevard 102.1. Je m'appelle Audrey Pinchot. Et tout au long de l'émission, ben oui, on a des collaborateurs, mais on a aussi des animateurs que vous connaissez bien qui viennent se joindre à nous. D'ailleurs, dans les prochains instants, point de presse préconseil qu'on va se faire présenter par Mathias Turcotte, qui est notre journaliste terrain. Je vous rappelle que s'il y a quoi que ce soit des dossiers que vous avez envie de fouiller, des idées de sujets pour Mathias, citoyen à commercial blvd.fm. Avant de rejoindre Mathias, il y a quand même un petit tour de nouvelles affaires. Il y a des nouvelles qu'on me chuchote à l'oreille.
Entre autres, là, mais vous rappelez surtout ce qui a retenu l'attention beaucoup jusqu'à maintenant aujourd'hui, là, le décès de l'acteur Marc Messier à l'âge de 78 ans. Un décès qui a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui par son agence. On parle d'une brève maladie, décédé entouré de ses proches, mais quand on dit brève maladie, là, il était encore en tournage au courant des dernières semaines, carrément, fait que ça semble vraiment très soudain. On le connaît pour Brou, on le connaît pour Lancé Compte, on le connaît pour La Régente en petite vie, on le connaît pour Les Boys, puis pour tellement de films, pour Les Voisins au théâtre, etc., etc. La communauté artistique, mais même en général, les témoignages ne cessent d'affluer pour parler de lui et à quel point c'était une bonne personne. D'ailleurs, aux environs de 16h, c'est à Claude Meunier qu'on devrait parler, qui était très, très proche. En plus d'avoir travaillé avec lui, c'était un ami de Marc Messier. Ensuite de ça, il y avait aussi aujourd'hui les hommages aux policiers décédés à Montréal le 22 juin dernier dans une fusillade de Mohamed Lamine Benredouane, qui est décédé à l'âge de 34 ans, père de famille. On a appris aujourd'hui que sa conjointe, eux, avaient déjà un enfant de 3 ans. Sa conjointe était enceinte au moment où on se parle.
Ça l'était déjà, mais tu sais, t'apprends des détails comme ça, puis on dirait que ça ajoute à la tragédie.
C'est des milliers de policiers de partout en Amérique du Nord qui se sont rejoints pour pouvoir lui rendre un dernier hommage. On a sorti les hélicoptères, tout ce que vous voulez, du côté de Montréal. Ceux qui avaient fait des examens du ministère en secondaire 4-5 et qui espéraient désespérément voir le résultat aujourd'hui, bien, surprise! Le service informatique du gouvernement, encore une fois, c'est pas possible
Est-ce
d'avoir accès à
ligne. Vraiment surprenant?
Non, d'où mon ton de surprise! Donc, des messages d'erreur 502 et 504. Selon la presse, même la ligne téléphonique du ministère de l'Éducation qui avait été mise en place en cas de problème technique fonctionnait pas. Fait que franchement, ça n'a pas été un grand succès. D'ailleurs, il y a eu une réaction un petit peu plus tôt aujourd'hui de la ministre de l'Éducation qui disait qu'on était au courant, on est en train de travailler là-dessus. Puis aux dernières nouvelles, c'était toujours pas réglé. Le premier ministre canadien, lui, est du côté de la Turquie en marge du sommet sur l'OTAN. Et en terminant, je sais pas si vous avez l'intention d'aller faire saucette du côté des îles de la Madeleine, mais le premier requin blanc de la saison a été aperçu à proximité des côtes. En fait, c'est Bella. Elle pèse 330 kilos et elle a été repéré au large des îles de la Madeleine dans le fleuve Saint-Laurent.
Ils ont donné un nom?
Bien, quand ils arrivent à en avoir un, puis souvent, ils vont le taguer pour être capables de suivre puis voir les mouvements, bien, à ce moment-là, ils ont un nom puis tout, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, depuis quelques années, il y a de plus en plus de requins blancs qui se rendent même à la hauteur des îles de la Madeleine. Les eaux sont trop chaudes pour se nourrir un petit peu plus bas. Fait qu'on les retrouve un petit peu plus dans notre secteur, alors qu'à une certaine époque, bien... c'était pour terroriser les gens de Cape Cod, les requins blancs. Maintenant, c'est plus près de nous.
Ça doit être hot quand même, faire ça de ta vie, traquer des requins quand tu y penses. Là. Je trouve ça hot comme job.
J'avoue. Je sais pas, tu fais quoi, biologie marine?
Oui, c'est des biologistes marins. Et moi, honnêtement, là, j'ai donné une série de formations à un moment donné à des gens qui travaillent dans ce domaine. Je n'aimerais pas nécessairement le client.
Le tagage de requins?
Non, ben, non mais tu sais, genre le spécialiste de la crevette. tu sais, l'expert du beluga.
Hey, tu parles d'un drôle de titre pareil. Hein? Toi, non, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis expert de la crevette.
Non, puis il y en a plus qu'on pense, mais c'est vraiment une des jobs qui revenait avec vétérinaire quand on était jeune, avec nos jobs de rêve, là, biologiste c'est marin vrai. À cause de la grenouille et la baleine.
C'est grandiose, on va se le dire. Peut-être aller sur les routes avant de rejoindre Mathias parce que ça se complique légèrement. Capitale, direction est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est déjà au rouge. Direction ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne. Si vous êtes sur Laurentienne Sud, vous allez chercher la bretelle Capitale Ouest. Dans la bretelle, c'est au ralenti. Des problèmes également sur Robert Bourassa, direction nord, entre Wilfrid Hamel et la Capitale. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir, je vous dirais, de Charest jusqu'à l'entrée des ponts, il y a quand même un bon ralentissement à prendre en compte. Charest, direction est, ça se passe entre Duplessis et Henri IV. Duplessis Sud, la bretelle de Charest, justement, vers les ponts, là, il y a encore des bons ralentissements à prévoir. Un peu plus haut, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, c'est route de la Bravo dans les deux directions où c'est un peu plus au ralenti. Route de Fossambeau, c'est à la hauteur de la Jacques-Cartier. Si on s'en va sur la rive sud, c'est un peu les classiques dont je vous parlais un peu plus tôt, là. Donc, de la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, dû aux travaux, entre autres. Quelques ralentissements inhabituels sur chemin des îles, là, entre Guillaume Couture et la 20. Quand vous tentez, entre autres, d'aller chercher la 20, là, c'est sûr que ça bloque pas mal. Le monde essaie de trouver une manière de se rendre à la maison, hein, mais c'est comme bloquer les deux bords. Si vous êtes sur Guillaume Couture, dû aux travaux, entre autres, entre chemin des îles et Taniata, également difficile. Ça, c'est pas mal le gros. Si vous avez d'autres détails, vous voyez autre chose, vous vous gênez pas au 418-971-1021. 15h28 minutes. Mathias, qui surveille pour nous les points de presse pré-conseils, il y en a un aujourd'hui. Et dans les dossiers, Mathias, il y avait l'itinérance parce que Radio-Canada a sorti un dossier sur la répression de l'itinérance et on a quand même posé des questions là-dessus à Bruno Marchand.
On y retourne, prise 2. Bonjour.
C'est le mauvais pli d'Audrey, mais ça va revenir.
Je sais pas, moi, le quatrième micro, il rush cette semaine-là.
Ah ouais, bien, regarde, il te reste plusieurs semaines pour t'acclimater.
Oui,
c'est ça le point positif. dernier conseil de ville aujourd'hui, d'ailleurs, là, avant le congé estival. Puis l'itinérance revient depuis 2 jours, je dirais, là, dans Radio-Canada, cette fameuse répression-là. Puis là, je la mets entre guillemets parce que c'est ce qu'utilise Radio-Canada comme terme.
Qui rencontre puis qui parle de cette répression-là?
Bien, c'est ça. C'est différents intervenants de la rue qui dénoncent ça. Là. Plusieurs intervenants, plusieurs itinérants aussi qui dénoncent ça. Entre autres, on avait des histoires parce que ce qui est dénoncé, c'est la politique zéro, la tolérance zéro pour les campements de la ville de Québec. Puis ce qu'on nous dit, c'est qu'au cours des derniers mois, depuis la fameuse histoire du campement itinérant dans le parc Jean-Paul Laillé...
Qui avait été nettoyé la veille d'une annonce, mais ça n'avait pas de rapport, supposément.
Oui, exactement. Ouais. Depuis cette histoire-là, ce qu'on nous dit du terrain, ce que rapporte Radio-Canada, c'est que la ville serait plus sévère concernant les campements. On parlait de certaines situations qu'on était venus démanteler des campements d'itinérants, qu'on avait laissé 10 minutes aux itinérants pour se déplacer. Puis, tu sais, on parle de personnes qui sont désorganisées, qui doivent ramasser leurs papiers, qui doivent ramasser leurs biens au final, là, parce qu'eux autres, c'est là qu'ils se sont installés pour vivre. Certains qui ont des papiers importants. C'était ça qui nous était rapporté par Radio-Canada.
Un petit manque d'humanité, peut-être, dans certaines pratiques.
Exactement. Puis là, la question a été posée au maire Marchand. Est-ce qu'on prévoit être plus lousse concernant les campements que ce qu'on est actuellement? Puis, je vais vous laisser entendre sa réponse, ça mérite d'être clair.
On vit dans une société où on ne peut pas faire les choses comme chacun le veut. À 600 000 personnes, c'est impossible. Alors oui, il y a des règles, puis il y a des règles pour les itinérants aussi. C'est pas parce que vous en arrachez que vous avez le droit de faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'humainement parlant, vous mettez un genou au sol que vous pouvez faire n'importe quoi sur votre voisin. J'en connais pas d'exemple où ça va bien, les campements. Ce que je connais, c'est des exemples où les pompiers interviennent. Ce que je vois, c'est des endroits où les policiers interviennent. Ce que je vois, c'est des endroits où le crime organisé va. Ce que je vois, c'est des conflits entre les gens. Ce que je vois, c'est des voisins autour dont la vie est complètement altérée. Qui pense à ces voisins-là? Qui pense au quartier?
Honnêtement, il n'y a pas tort. C'est peut-être le ton et le petit manque de tact dans la façon de l'apporter qui fait en sorte que ça sonne un peu moins humain. Puis, mais il n'y a pas tort qu'il faut un cadre.
Oui, parce que d'un autre côté, si la ville ne fait pas ça, tu vas avoir une autre frange de la population qui va sortir en disant « là, ça n'a pas de bon sens ». Ils laissent tout aller, puis il y a des questions de sécurité, de propreté, de tout ce qu'on met d'habitude sur la place publique. L'équilibre est fragile.
Mais
la
c'est
ligne
le ton,
est mince.
Mais c'est le ton est... des fois. Encore parce qu'effectivement, les campements, je veux dire, on le sait, là, c'est des enjeux. Et si on laisse ça aller, quelles seront les conséquences?
Ben oui.
Mais je ne sais pas si c'était nécessaire de faire cette espèce de laïus.
D'avoir un ton aussi ferme que ça. Puis c'était un peu ça tout au long du point de presse. Ça. Vous allez le sentir dans des cas là, sur les différents sujets.
Je sais pas si c'est parce que tu deviens écœuré un moment donné. Hein?
Sûrement.
Anto, tu sais, c'était toi qui a fait beaucoup et qui fait de la comme politique là. Ouais. Je me demande si à un moment on a souvent parlé d'à quel point le maire devenait irrité et irritable
ouais, mais ça,
sur
pense
certains
aussi,
sujets.
C'est une condition qui est dans l'air de l'hôtel de ville puisque Régis Labeaume était beaucoup comme ça là.
C'est peut-être le cas où la nature des enjeux, le fait qu'évidemment tu te fais talonner par les médias puis.
Ah puis lui l'itinérance, je veux dire, on lâche pas avec son itinérance zéro puis c'est sûr qu'il s'est prononcé rapidement sur cet enjeu là.
Ouais puis en même temps on dit peut-être un peu manqué de tact mais on peut pas dire qu'il n'a pas été clair.
Oui.
Parce que des fois, les politiciens, ils nous répondent avec des réponses de politiciens. Pauvre, ouais. Ben là, ça avait au moins le mérite d'être clair et tranché.
Puis d'ailleurs, il s'est fait relancer à savoir, mais ces personnes-là, on les déplace, mais c'est quoi qu'ils vont faire? C'est quoi... S'il n'y a pas d'autres alternatives en place, il a tenu à rappeler le fait qu'il y en avait des alternatives.
Il y en a d'autres alternatives. On vient d'ouvrir un répit de nuit, on a un refuge, on a l'Aube-Rivière, on a des maisons. Il y en a d'autres alternatives. Ça n'enlève rien à notre souffrance, mais ça veut juste dire que comme ville, on essaie d'être humain, on prend soin des personnes itinérantes, on soutient les groupes communautaires, on travaille avec eux, mais non, un campement, ça aide personne. Pas plus les voisins que les personnes itinérantes.
Je trouve ça plate, mais j'ai pas le choix d'être un peu d'accord, mais c'est dur en même temps parce qu'on parle d'humains, tu sais. On parle d'humains qui sont solidement bas, qui en arrachent, qui sont des fois un peu captifs de la maladie mentale, des problèmes de santé.
Puis, si, mettons, la ville était plus tolérante, s'il devait se passer un drame, parce qu'il y en a déjà eu dans des campements, la ville se serait pointée du doigt en se faisant dire « Vous n'avez pas tout fait pour qu'ils soient en sécurité, vous avez laissé ça aller. »
Puis je tiens à souligner que sur ce point-là, l'opposition, Stéphane Lachance de Respect Citoyen, est en accord avec la politique de la ville, avec la tolérance zéro pour les campements. Là. Donc, c'est quand même unanime du côté de l'hôtel de ville.
Un autre sujet qui a été traité, Mathias, c'est la sécurité routière dans le secteur de Beauport, entre autres. Bon, plusieurs accidents graves
dont
en deux mois, dont un mortel, un jeune cycliste de 11 ans. Et ça ramener des débats, là.
Ah ben forcément, là, puis c'est trois accidents graves en deux mois dans le secteur de Beauport. Là, on a eu la mort du jeune cycliste de 11 ans, un drame de ce côté-là. Puis le maire Marchand qui a été clair de ce côté-là aussi. Il a affirmé qu'il allait tout faire pour améliorer la sécurité routière en général, mais précisément sur l'avenue des Sablonnières, là, qui est en cause pour le décès du jeune garçon, a salué le travail des différentes personnes qui sont derrière les pétitions, être prêt à les entendre, saluer le travail de Mélanie Sauvé aussi, qui est conseillère pour l'opposition dans ce secteur-là, a salué son beau travail, sa belle collaboration. Donc c'est clair, on veut faire de quoi? On veut améliorer la chose. Il en a profité aussi pour faire un cri du cœur contre ceux qui s'opposent toujours aux mesures de sécurité que la ville veut mettre en place. Je vous laisse entendre.
Toujours ramener chaque aménagement à la gare à l'auto, là, c'est complètement disgracieux. Puis on l'a vécu dans des endroits, je vous rappelle les saillies de trottoir, là. On l'a vécu dans des endroits où parce qu'on enlève un stationnement pour élargir le trottoir en bout de rue pour faire en sorte de rapprocher les deux intersections et que le piéton soit moins longtemps dans la rue, des conseillers, des conseillères qui se sont fait tirer des tomates par du monde. Hey, la gare à l'auto, vous... Non. C'est la guerre aux accidents, c'est la guerre aux pertes de vie, c'est la guerre aux gens frappés, c'est la guerre aux gens blessés. Oui, ça, c'est la guerre. C'est notre guerre.
Des fois, Mathias, tu viens nous présenter des extraits, puis je trouve que le maire est un peu... Mais honnêtement, aujourd'hui, en tout cas, à date, moi, ce qu'il dit, ça fait du sens dans mon oreille.
Bien, il était punché aujourd'hui, puis tu sais, sur ça, il a pas tort, mais il mettait comme beaucoup de responsabilité sur ça aussi.
Oui.
Parce que...
Alors que les automobilistes, là, s'il y a des accidents, habituellement, c'est pas à faute du fait qu'il n'y ait pas de saillie, là.
Non.
C'est qu'il y a des automobilistes qui conduisent comme des caves, puis qui font pas attention.
Puis ça, il a ciblé, il a tenu à rappeler qu'on avait une responsabilité individuelle à travers ça. Il a aussi précisé que du côté de la ville de Québec, pour lui, on a quand même beaucoup de retard. Puis ça, c'est dans tous les secteurs.
Sur la sécurité routière.
Sur la sécurité routière. Puis il a assumé, il a dit, on essaye de faire beaucoup de travail, mais on a du retard à à rattraper partout à travers la ville de Québec.
Souvent, quand on parle de sécurité routière puis on jase des annonces de la ville, on finit par recevoir beaucoup de textos d'auditeurs et d'auditrices qui sont dans des secteurs résidentiels en disant « Bien, nous autres, on écrit au 311 parce que notre rue, c'est un raccourci, les gens la prennent vite, c'est dangereux, il y a des enfants dans le coin. Nous autres, on voudrait qu'il y ait des mesures d'atténuation pour permettre de ralentir. On n'a pas de réponse de la ville. » Fait que, tu sais, je pense qu'il y a aussi beaucoup le principe de « pas dans ma cour ». On veut que ce soit, tu sais, sécuritaire, mais dès qu'on voit quelque chose qui est annoncé, oh, on est contre ça un peu. On a un double discours même par rapport à tout ça, là.
Définitivement. Mathias, en terminant, tout ce qui est statut de Samuel de Champlain, c'est quoi l'affaire?
C'est une saga, là. Puis ça dure depuis maintenant quelques semaines. La statue de Samuel de Champlain qui a été retirée du côté de l'Ontario à Orillia. Puis la raison de son retrait, c'est en raison d'un scandale parce qu'on voyait des personnes autochtones au pied de Samuel de Champlain dans cette statue-là. Puis on avait déjà
c'était
vu
très colonisation.
C'est
là.
Ça. Puis on avait déjà vu ça par le passé, des œuvres qui étaient retirées en raison de ça. Puis là, au cours des dernières semaines, on a appris que ça se pourrait que cette statue-là soit amenée à la fonderie et tout. Puis différents groupes ont levé la main pour dire « Hey, on veut la rapatrier au Québec ». Différents groupes de Montréal. Puis là, c'était l'opposition de la Ville de Québec qui a demandé à la Ville de Québec de rapatrier la statue. Stéphane Lachance propose de la mettre sur le long de la promenade Samuel de Champlain, notamment.
Il y a Marc Bellemare qui voulait en faire l'acquisition aussi, puis l'offrir à la Ville.
Puis on n'avait pas nécessairement encore entendu le Marchand sur ce sujet-là. Eh bien, pour vous faire bref, la Ville ne va pas faire l'acquisition de la statue et voici pourquoi.
Bien, dans un monde idéal, la réponse, c'est pourquoi pas. Mais maintenant, quand on revient dans le pragmatique... La statue qui est là actuellement, sur la terrasse, il y a un sommaire ce soir où on passe, entre autres, des rénovations de monuments de ce type-là. Pour l'instant, c'est pas encore final, mais pour l'instant, on essaie de réduire le prix. La rénovation de la statue actuelle, c'est 2 à 3 millions. On en a une, on met 2 à 3 millions dessus pour l'instant, pour la rénovation de ça. On n'en aura pas d'autres qui vont nous coûter des millions aux contribuables. La réponse est non.
C'est de l'argent, là, honnêtement. Ça prendrait un philanthrope. Qui prennent ça en charge.
Ben, d'où le maître Marc Bellemare qui l'a peut-être acheté. Mmh. Mais tu sais, encore là, c'est de l'entretenir après.
Ben oui.
Puis d'avoir plusieurs statues à l'effigie d'un même personnage historique dans une ville, c'est-tu commun? Je sais pas.
Ça peut arriver, okay. Oui. Mais tu sais, dans ce cas-ci, c'est qu'on hérite de quelque chose.
Une controverse.
Qui va... C'est ça.
Mais
t'sais.
Moi, je pense que ça nous prendrait une espèce de musée de la mémoire
et
au Québec
et
au Canada.
Avec toi,
parce qu'actuellement, on est en train d'effacer des traces de choses qui sont arrivées puis qui ont été manipulées, qui ont été...
Oui, musée de l'annulation, ce serait bien.
Mais moi, c'est vraiment plus de la mémoire parce que si on ne se souvient pas des faux pas et des erreurs, on est condamné à les refaire dans le temps.
Ah mon Dieu, tu sais, je pourrais pas dire mieux. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, j'ai toujours eu ce malaise-là avec, oui, certaines choses qu'on a faites dans le passé, mais je pense qu'effectivement, si c'est encadré, puis on dit ça, c'était avant, on vient de là, et ne refaisons pas les mêmes erreurs, je suis exactement au même endroit.
Les personnages historiques, là, des personnes nettes, il n'y en a pas tant que ça. On peut en trouver du stock, mais c'est justement de s'en souvenir et d'apprendre. Comme société.
Puis aujourd'hui, en point de presse, on avait justement ramené l'exemple de la mosaïque. Là,
l'hôtel de ville.
Oui, c'est ça, à l'hôtel de ville qui a été retiré en juin dernier.
Je l'aurais mis dans mon fameux musée de la mémoire.
Elle aurait eu une place.
Oui, absolument. Et moi, je pense qu'on tient quelque chose. Le fameux « je me souviens, mais pour de vrai », là.
Oui, c'est vrai, hein, de le matérialiser.
Oui, exactement.
Pourquoi il y a personne qui pense à ça? Hein?
Pourquoi cette œuvre-là s'est retrouvée controversée? C'était quoi l'interprétation? Qu'est-ce qui n'avait pas correct? Puis... faut qu'on le garde, là.
Mettre en contexte, définitivement.
Je veux juste finir avec un mot sur le débat à Québec, là, parce que tout ça a été lancé par le Parti conservateur. Là, le chef de l'opposition, Respect citoyen, ils ont déposé un avis de proposition qui va être accordé à l'unanimité si c'est pas déjà fait, là, le conseil de ville est présentement.
On avait décidé de l'appuyer au conseil exécutif, là.
Exactement. Marchand qui a commenté, qui a fait la demande explicitement, là, que ce soit Radio-Canada, qu'on a quand même visé particulièrement, mais un autre média de venir déplacer son débat à Québec. Même en ciblant Radio-Canada précisément, on a demandé à ce que Radio-Canada fasse ce pourquoi ils sont là, répondre à leur rôle, puis dans ce contexte-là, déplace le débat dans la capitale nationale.
Merci Mathias Turcotte, c'est toujours un plaisir. Vous voulez le rejoindre, citoyen à commercial blvd.fm, vous vous gênez pas, je sais que t'es attendu l'autre bord court.
Ah ouais, il y a pas de stress, allez, salut, bonne journée.
Dans les prochaines minutes, Éric Sauvé s'en vient, président d'Innovigo, qui est une firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. On a bien des choses à jaser, là, que ce soit les sous-marins, le sommet de l'OTAN, Trump et les annonces d'armement. Il y a des choses à dire, on s'en vient dans quelques instants avec ça à Boulevard 101. Jusqu'à 18h, on s'accompagne.
Le retour de Boulevard, 100% parler, tout l'été.
Au Crackpot Café, laissez parler l'artiste en vous. Choisissez votre céramique, prenez vos pinceaux et créez une pièce unique et colorée dans une ambiance chaleureuse. Entre amis, en famille ou en amoureux, vivez une expérience créative au Crackpot Café. Réservez maintenant au crackpotcafé.com.
Découvrez la vallée Bras du Nord à Saint-Raymond, une destination incontournable pour le vélo de montagne. Parcourez des sentiers exceptionnels, puis détendez-vous au Roquemont avec sa terrasse pied dans l'eau, une bonne bière à la main. Planifiez votre escapade au valleybrasdunord.com.
T'as reçu des fleurs.
Des fleurs?
Ben oui, regarde, il y a un petit mot aussi.
Félicitations, M. Pépin. On apprécie ce que vous faites. Merci de planter vos arbres loin des fils électriques. Votre cour est très belle. Bravo.
Non, ça vient de qui?
C'est signé Hydro-Québec.
Planter ses arbres loin des fils électriques pour éviter des pannes, ça mérite des fleurs.
Bonjour, ici Jessica de Le Beau Vitre d'Auto. Votre pare-brise est fissuré? C'est le moment d'aller chez Le Beau. Pour un temps limité, quand vous faites remplacer votre pare-brise par nos experts, on vous offre gratuitement un nettoyeur de vitres Karcher qui nettoie et aspire la saleté d'une valeur de 100 $. Avec Le Beau, un nouveau pare-brise solide et un nettoyeur de vitres électrique gratuit, c'est brillant. Faites vite, les quantités sont limitées. Prenez rendez-vous sur lebeau.ca. Détails et conditions sur lebeau.ca.
C'est le moment de prendre le volant du Volkswagen. En juillet, profitez d'un financement à 0% jusqu'à 60 mois sur les Jetta, Atlas et Atlas Cross Sport. Plusieurs véhicules sont disponibles en inventaire. Découvrez votre prochain Volkswagen dès maintenant chez Desjardins Volkswagen. Pour un été magique en famille, rendez-vous chez BeFly Québec, maintenant ouvert au 6525 Boulevard de l'Ornière. Plongez dans un monde fantastique entouré de centaines de papillons en liberté aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec un mini-golf unique, un module de jeu géant et un labyrinthe de miroirs. Une sortie familiale qui émerveillera petits et grands. Réservez votre visite au bfly.ca.
Ici Éric Duhem. J'ai travaillé en politique puis ici à radio parce que je crois que les gens ordinaires méritent quelqu'un prêt à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Même quand ça dérange, j'ai jamais hésité à prendre la parole pour les gens que personne n'écoute, pour les familles qui comptent leurs sous à l'épicerie, pour les entrepreneurs qui portent le poids de l'État sur leurs épaules, pour les patients qui attendent trop longtemps leur traitement contre le cancer, pour les jeunes qui ont abandonné leur rêve de s'acheter une maison. Ces gens-là méritent un politicien qui va pas les abandonner. Ils méritent un changement. C'est pour vous autres que je me bats.
Chez Miville Climatisation, on est concessionnaire autorisé Mitsubishi Electric numéro 1 au Québec. On est même lauréat du prix Diamant témoignant de notre excellence. Grâce à nos thermopompes performantes chez Miville Climatisation, ça fait 57 ans qu'on garantit votre confort. Visitez miville.ca.
Du 9 au 12 juillet de 10h à 17h, c'est la grande vente d'entrepôts à Québec. Retrouvez la galerie du meuble à Courcelette et Jardin de Ville sur Charest avec jusqu'à 70 % de rabais sur le mobilier intérieur et extérieur.
Le mercredi 15 juillet, c'est le jour des cantimes. Achetez un café chaud ou glacé pour aider des jeunes d'ici à se bâtir un meilleur avenir. Chaque café compte. Dans les restaurants participants au Canada.
Venez créer des souvenirs en famille. Village Vacances Valcartier, une journée, c'est pas assez. Réservé en ligne pour économiser.
Le retour de Boulevard 100% parler tout l'été.
Jusqu'à 18h, c'est le retour de Boulevard. On essaie de s'amuser, mais on a des devoirs à faire quand même quand il se passe des choses. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit, ça passe toujours par le 418-971-1021. Dans les prochaines minutes, on rejoint Éric Sauvé, qui est président d'Innovigo, qui est une firme de consultation en renseignement, sécurité, défense. Éric Sauvé qui nous jase aussitôt qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe à l'international. Véro, peut-être juste nous faire le résumé des dernières actualités, là. Tout ce qui touche le sommet de l'OTAN.
Oui, parce qu'on s'en est parlé un petit peu plus tôt, comme le premier ministre Mark Carney hier. Il y avait d'ailleurs plusieurs rencontres qu'il a faites de ce côté-là, que ce soit, parce que là, on est du côté de la Turquie. Il a rencontré le président turc, il y a eu une rencontre bilatérale avec Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, parce que, mine de rien, ça fait encore partie des sujets de l'actualité qui touchent l'OTAN. Il y avait aussi des rencontres prévues avec le chancelier allemand, mais aussi avec le premier ministre norvégien. Il y a un contrat de sous-marin qui a été donné hier à un consortium. Je dis qu'il a été donné. En fait, il y a un consortium qui a été choisi hier pour éventuellement avoir un contrat pour les sous-marins de la Marine royale. Rencontre avec aussi le président sud-coréen, parce que la Corée était aussi dans la course à tout ça. Mais là, il y a Donald Trump qui continue à faire des reproches du côté de l'OTAN, entre autres sur leur non-participation au conflit avec l'Iran. On a parlé de hausse des dépenses aussi. Là, on parle d'une hausse des dépenses de 11 % pour les pays européens et pour le Canada. Fait que puis Trump qui continue à mettre la bisbille en reparlant du Groenland. Fait que c'est assez surveillé ce qui se passe de ce côté-là.
Je t'ai soufflé. Fait qu'on a des choses à raconter. Éric Sauvé qui est au bout du fil. Éric, tu m'entends?
Oui, ça va bien, toi?
Génial, ça va super bien, merci. Sommet de l'OTAN, les grands thèmes, mettons, de ce sommet-là, c'est quoi?
Bien, comme vous disiez d'entrée de jeu, on va parler des dépenses militaires. Les pays de l'OTAN se sont entendus pour monter jusqu'à 5 % du PIB. Est-ce qu'ils vont tous réussir à faire ça dans les prochaines années? Ça reste à voir. Mais là, ce que j'entends, c'est que Trump est là pour mettre de la pression, ouais, pour demander à chaque pays de dépenser comme ils ont dit qu'ils allaient dépenser. Mm. La bonne nouvelle pour le Canada, c'est que Mark Carney arrive là avec un gros contrat qui n'est pas encore en poche. Mais comme vous avez mentionné, le Canada s'est entendu pour acheter les sous-marins allemands. Donc, ça a été quand même assez rapide. On parle entre 8 mois et 2 ans de négociations, ce qui peut paraître très long, mais pour le plus gros contrat de la défense canadienne, c'est quand même extrêmement rapide ce qui s'est passé.
Éric, qu'est-ce que Trump essaie de gagner en mettant autant de pression sur les pays membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses?
Trump, depuis le début, essaie de retirer les forces américaines, de faire en sorte que l'OTAN et surtout l'Europe prennent en charge sa propre sécurité. Alors, évidemment, la rhétorique de Trump, c'est toujours de l'hyperbole. Qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'au début, il disait « Si vous prenez pas en charge votre sécurité, je vais demander à la Russie de vous attaquer. Ou je vais prendre le Groenland, ou je vais prendre le Canada, etc. » Il exagère toujours, mais il faut quand même lui donner comme réussite que les pays ont dit, en fait, tous les pays ont dit qu'ils allaient atteindre 3,5 % plus 1,5 % pour des dépenses connexes, c'est-à-dire cybersécurité, infrastructure. Là, est-ce que les pays vont continuer à garder leurs promesses après que Trump ait quitté? Ça reste à voir. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est vraiment ça. C'est que Trump est là pour tenir les gens selon les promesses qu'ils ont faites la dernière fois.
Bon, Trump reste Trump, là, mais il me semble, tu m'as dit, c'est positif au final si chacun est capable d'assurer sa propre sécurité?
C'est positif au final. Encore une fois, on peut chialer sur la méthode avec raison, mais c'est positif au final parce qu'il a atteint un but pour l'OTAN. Et puis l'Europe aussi, voyant qu'est-ce que Trump fait, l'Europe commence à travailler ensemble, se réarmer. Le Canada, justement, a choisi l'Allemagne parce que c'est un pays européen, parce qu'il travaille avec la Norvège, travaille avec le Danemark. Donc, pour l'interopérabilité de l'OTAN, le fait d'acheter des sous-marins de l'Allemagne, c'est une bonne chose, contrairement aux sous-marins sud-coréens, qui étaient aussi intéressants, mais qui n'étaient pas des sous-marins qui avaient une interopérabilité immédiate.
C'est un peu plus général, Éric, comme question, mais qu'est-ce qu'on cherche puis qu'est-ce qu'on attend des armées aujourd'hui? Tu l'as dit dans les thèmes, les dépenses militaires, la production industrielle de défense, j'imagine que ça a pas mal changé au fil des années, là.
Ce qu'on réalise, c'est que ça prend une production industrielle de masse. On voit avec l'Ukraine, c'est pas le fait d'avoir des bons drones au début de la guerre qui compte, c'est le fait d'avoir des drones en masse, de pouvoir avoir une production industrielle. Puis là, il faut vraiment penser style Deuxième Guerre mondiale, où l'économie faisait en sorte que on prenait des entreprises et on disait « Tu faisais du métal hier, maintenant tu fais des balles, tu fais des chars d'assaut. » C'est dur à s'imaginer parce qu'il n'y a personne d'entre nous ici en ce moment qui a vécu ça. Mais c'est un peu la mentalité que le Canada, sous Carney, a adoptée. Et la mentalité que les Européens adoptent, c'est de dire « La première vague, ça va durer peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, mais on va devoir continuer à envoyer de l'équipement si jamais il y a une guerre majeure. » Puis on a vu la même chose en Iran aussi. Hein. En Iran, on a entendu parler des drones, mais aussi des intercepteurs qui qui coûtait très cher, qui coûtait 1 million et plus. Et on s'est rendu compte que les Américains, en quelques semaines, ont passé à travers une grosse partie de leurs intercepteurs et ne pouvaient pas soutenir la demande, comme si la guerre avait duré, mettons, 6 mois ou 1 an. Il aurait fallu ralentir les tirs à cause de ça.
Je reviens un peu sur les dépenses militaires canadiennes et toutes les grosses annonces qu'on a vues dans la dernière année en matière de défense. Entre les annonces et le moment de la livraison de, t'sais, là, par exemple, cette semaine, on parle beaucoup des sous-marins. C'est des longues années.
On parle
finalement.
De 2034, je pense, pour
2034,
les premiers.
Puis on pourrait parler de la saga des avions, là, oui. Évidemment, là, qui a duré pendant 15 ans. Est-ce que ça va être un autre héritage de l'époque de Trump sur le Canada, c'est-à-dire de rendre plus efficaces les processus de procurement au niveau de la défense? Parce que, honnêtement, est-ce que c'est normal que ce soit si long entre des annonces et la concrétisation en vraie capacité militaire?
C'est une excellente question. C'est normal et c'est pas normal. C'était normal dans le temps où on était en paix et où on voulait le meilleur pour l'argent qu'on mettait, où on voulait développer l'industrie canadienne. Donc, le système était fait en fonction d'acheter des grosses pièces d'équipement. On parle d'avions de chasse, de chars d'assaut, de sous-marins, de navires. Mais le système n'a pas l'agilité pour le monde d'aujourd'hui où l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut imaginer, fait en sorte que l'équipement devient obsolète très rapidement. Donc, il fallait changer, on est en train de changer. Il y a une nouvelle stratégie industrielle de défense, il y a une nouvelle agence d'investissement de défense qui essaie de revoir les processus, parce que les processus étaient faits pour éviter le risque, mais des fois, c'est plus risqué de ne rien faire. Puis pendant longtemps, c'est ça qu'on a vu, c'est que, oui, on n'a pas eu de dépenses folles ou de dépassement de coûts et quoi que ce soit. Non, on n'avait pas l'équipement dont on avait besoin. Fait que là, en ce moment, on essaie de trouver un juste milieu à dire il faut acquérir plus rapidement sans faire des erreurs monumentales à la Phoenix ou à la SAC-CLIC, mais quand même, il va falloir accélérer parce que sinon, ce qu'on risque, c'est une défaite sur le champ de bataille.
Parlons-en des sous-marins. On l'aborde brièvement depuis tantôt. Le Canada a retenu l'entreprise allemande TKMS pour remplacer les 4 sous-marins de la classe Victoria. Pourquoi c'est important, Éric?
Les derniers sous-marins que tu as mentionnés, la classe Victoria, il faut comprendre qu'ils ont été acquis en 1998 et ils étaient déjà usagés. Donc, ces sous-marins-là, ils ont dépassé leur durée de vie. On va essayer de les maintenir jusqu'en 2032, 2034. Mais quand on compte le nombre de sous-marins, on en a 4 en ce moment. Il y en a vraiment seulement un qui est opérationnel. Et si on en acquiert 12, c'est pour en avoir 4 en opération, 4 en exercice et 4 en maintenance. Parce qu'on sait, les grosses pièces d'équipement de la marine, comme les navires ou les sous-marins, ça passe beaucoup de temps en cale sèche à se faire réparer, à se faire maintenir. On a choisi des sous-marins qui, au goût du jour, ressemblent un peu à la classe Victoria, c'est-à-dire que même nombre d'équipages, même longueur, mais c'est des sous-marins furtifs qui peuvent aller facilement dans l'Arctique, qui peuvent rester 3 semaines sous l'eau, et que si tu les lances de la côte ouest ou la côte est, ça prend 48 heures pour se rendre en Arctique. Donc, c'est vraiment un sous-marin qui est bien adapté pour le Canada, contrairement aux sous-marins sud-coréens, qui étaient plus gros, qui n'avaient pas été testés dans les régions froides, et puis qui, finalement, n'avaient pas les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'ils étaient plus dans un contexte de guerre intense. Tandis que nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de repousser les menaces russes et chinoises dans nos eaux territoriales dans le Nord.
Oui, parce que tu me corrigeras, mais à un certain moment donné, on se souciait peu hein, de tout ce zonage-là dans l'Arctique. Puis là, depuis quelques années, on semble avoir multiplié les missions dans ce secteur-là pour la protection du Canada. Fait que ça a peut-être amené une certaine pression aussi d'avoir des sous-marins qui vont pouvoir être utilisés.
D'un côté, on s'en souciait peu, mais il y a aussi le fait qu'il n'y avait rien qu'on pouvait
faire.
Il n'y
avait pas de menace. Hein. Oui, aussi, c'est vrai.
T'sais, on pouvait voir si un navire chinois vient naviguer dans nos eaux ou un navire russe, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas se projeter à cette distance-là. Et puis, même les Américains contestent le passage du Nord-Ouest. Ils disent que ça n'appartient pas au Canada. Donc, eux aussi veulent naviguer dans nos eaux sans la permission. Alors, c'est important, justement, dans le contexte qu'on vit, d'avoir ses propres sous-marins, de pouvoir faire de la collecte d'informations, puis de pouvoir projeter la force dans la région si jamais il y a un problème.
Là, on a le type 212 CD. Tu comprendras que je le dis comme je pense. Là. ça veut dire quoi en français, ce mettons, pour nous autres?
C'est un sous-marin diesel électrique qui est construit conjointement avec la Norvège. C'est C'est un sous-marin qui est environ 75 kilomètres, pardon, 75 mètres de long. Et puis, il est furtif. Il y a une batterie qui lui permet de descendre sous l'eau et de rester 3 semaines. Il peut se promener sous les glaces arctiques sans jamais être obligé de sortir. Ce qui n'est pas le cas des sous-marins qu'on avait là. Un sous-marin, ça peut rester très longtemps sous l'eau sans être détecté. La minute où ça sort, évidemment, il vient de donner sa position. Ce qu'on aurait pu avoir de mieux, c'était des sous-marins nucléaires, mais pour une foule de raisons, y compris la question nucléaire et aussi le coût. Je crois pas que c'était vers ça que le Canada devait
mais
aller.
Je voulais te la poser, la question, parce que ça offre une autonomie, une vitesse supérieure. Fait que on se demande quand même pourquoi pas, là.
Bien, c'est le coût, premièrement. Tu sais, déjà, les Canadiens vont faire le saut, là, parce que la facture pour les sous-marins allemands est de 20 à 30 millions. On ne sait pas c'est quoi les chiffres exacts. Puis 40 à 50 milliards et 40 à 50 milliards pour l'opération puis la maintenance sur la durée de vie. Donc, on tourne autour de 80 milliards. Mais si on avait eu des sous-marins nucléaires, on en aurait eu moins pour une facture de peut-être 250 milliards. Mmh. Est-ce qu'on est prêt à ça collectivement? Parce que ce que le gouvernement Carney va devoir faire, c'est dire où est-ce que les coupures vont avoir lieu. Ça, on ne le sait pas encore. Hein. Et ça, quand ça va sortir, il y a peut-être des gens qui vont remettre en question justement l'acquisition de F-35 et de sous-marins.
Fait que, bref, si je résume, Éric, le but aujourd'hui, c'est une question de produire suffisamment pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui. Là. C'est un peu la mission avec tout c'est le sommet de l'OTAN, puis les discussions qu'on a actuellement, puis les décisions qu'on prend. Là.
On a sous-financé la défense pendant des décennies, il n'y a aucun doute là-dessus. Les années Trudeau ont été catastrophiques à ce point-là. On n'a pas tenu nos promesses au niveau de l'OTAN. Pour la première fois, on a un premier ministre qui dit on va tenir nos promesses. Mais non seulement ça, c'est qu'on va construire Canadien, on va développer l'industrie. Moi, je le vois, là, surtout au Québec, il y a beaucoup d'industries qui n'étaient pas tournées vers la défense, qui maintenant commencent à comprendre la culture, commencent à comprendre les besoins. Et tout ça, ça va être des acquis qui vont durer pendant des années. Donc, même si les budgets ne sont pas tout le temps au rendez-vous, disons dans 5 à 10 ans, il y a une culture qui se développe, il y a des gens qui comprennent et qui peuvent aider la défense si jamais on a affaire. En anglais, on appelle ça un surge, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'équipement de façon rapide.
Éric Sauvé, c'est toujours vraiment un plaisir que tu nous vulgarises un peu ce qui se passe dans le monde. Ça nous aide à comprendre, maintenant, pour vrai, prends-le. Président d'Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Merci d'avoir pris le temps, Éric.
Merci à toi, salut.
Il est 15h58 minutes.
T'sais, on parlait des sous-marins puis de l'ampleur du contrat. Puis justement, au courant des dernières minutes, c'est un article du Devoir qui a été mis en ligne. Comment les entreprises d'ici se préparent à la fabrication de la nouvelle flotte de sous-marins? C'est entre autres l'entreprise Marmen qui est située à Trois-Rivières, qui a un partenariat avec le volet allemand de l'entreprise avec laquelle on va tenter de signer un contrat. Fait qu'eux risquent de se retrouver avec la fabrication de certaines pièces. Puis c'est tellement intéressant. T'sais, on parle de défense. Quand on parle de défense, on parle aussi de sécurité. Mm-hmm. Fait qu'eux, vraisemblablement, quand ce sera suffisamment avancé, ils devront avoir de nouvelles installations qui vont être à part, justement, pour des questions de discrétion puis de tout ce que vous voulez. Engager des nouveaux employés pour ça. Fait que, tu sais, quand on a parlé hier des retombées économiques pour le Canada, que TKMS estimait que c'était quelque chose comme 85 ou 86 milliards avec un 50 000 employés annuellement, c'est ce genre d'affaires-là. Tu vas en avoir pour la fabrication, mais tu n'auras ensuite de ça pour l'entretien. Puis la rotation, moi, je ne savais pas cette histoire-là, là, que ça te prenait 4 sous-marins actifs, 4 sous-marins pour les exercices.
Je ne savais pas non plus.
Le 4 en maintenance au cas où.
Mais j'ai l'impression qu'on commence à s'intéresser un peu plus aux sous-marins, étant donné que ça fait un peu plus l'actualité,
à la
personnellement.
Défense, en général.
Ben, absolument.
Tu sais, ben, parce que Montréal, à un moment donné, c'était le pôle de l'aéronautique. Puis là, on voyait ça donc ben gros. Puis. Avec 2001, entre autres, l'industrie, ça s'est ralenti énormément. Puis là, on est en train de revoir une certaine poussée parce qu'il y a des partenariats avec Saab. D'ailleurs, il y a peut-être des rumeurs qu'il y a des fabrications en défense qui se passent du côté de la région de Montréal. Fait que c'est comme si, soudainement, notre volet manufacturier était en train de se redéfinir avec les normes de 2026.
Je trouve ça intéressant qu'on s'y intéresse puis qu'on en parle, pour vrai.
Absolument.
Parce que, personnellement, tout ce qui est défense ou international, j'ai toujours eu un petit retard, moi, là-dessus, là, dans le sens que pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais je veux dire, quand tu ne suis pas la vague, tandis que là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau à la vague.